Radio Kapi. C'est l'heure du journal de 8 heures avec Gisèle Cage à la présentation.
Mesdames, messieurs, les titres du journal. Il est peut-être temps de réfléchir à une réforme constitutionnelle pour éliminer les failles qui entravent le fonctionnement de notre appareil étatique. Félix Tshisekedi l'a déclaré hier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Vous l'entendrez dans ce journal. Plus de 700 ex-otages des combattants, des ADF réunis avec leurs familles en l'espace de 3 ans. Ces ex-otages ont été sauvés grâce aux opérations conjointes des FARDC et des l'UPDF, ainsi qu'aux campagnes de sensibilisation et aux messages de reddition, explique la fondation américaine Bridgeway qui a facilité cette réunification. 6 mois après le désengagement de la MONUSCO du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi félicite la mission de l'ONU sur l'excellent travail réalisé au Sud Kivu, notamment dans le cadre de la protection des civils. Jean-Jacques Purusi l'a dit à l'issue d'une visite à l'équipe résiduelle de la MONUSCO. Il est l'invité de ce journal. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le mercredi, le président Félix Tshisekedi a invité le Congolais à s'engager dans une réforme constitutionnelle. Cette démarche consiste, je cite, uniquement à lancer une initiative visant à inviter les compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Suivez Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Martin Sebujangwe.
Cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique.
Nous le disions dans le titre, plus de 700 ex-otages des combattants des ADF, dont des enfants ont été remis à leur famille par la fondation américaine Bridgeway dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Nous sommes dans la province du Nord Kivu et cela, en l'espace de 3 ans, ces chiffres a été révélé lors d'un point de presse commun le mercredi 11 décembre à Beni, animé par le responsable de la fondation Bridgeway et de l'organisation Ukweli Defection Committee chargée de la réinsertion familiale. Ces ex-otages ont été sauvés grâce aux opérations conjointes des FARDC et des l'UPDF, ainsi qu'aux campagnes de sensibilisation et aux messages de reddition. Jérémy Sekombi Katondolo, chef de mission des Bridgeway, s'est exprimé au micro de Radio Kapi sur le travail accompli.
Nous avons réinséré exactement 782 ex-combattants et ex-otages confondus. Nous travaillons en appui aux opérations Souja, donc les opérations conjointes entre le FARDC, l'armée de la République démocratique du Congo, et l'UPDF, l'armée de l'Ouganda. Et c'est comme ça qu'en conjointe activité, nous travaillons sur d'abord la réduction ou la défection de rendus. C'est un travail qui est fait d'abord en amont avec la communauté pour qu'il n'y ait pas de cas des récidivistes et aussi de recrutement dans les communautés cibles, mais aussi pour qu'il y ait une forte sensibilisation pour que les gens qui se rendent soient bien traités à la fois par la communauté mais aussi par les militaires ou les services spécialisés qui se trouvent dans ces milieux. Donc c'est un travail conjoint entre les services spécialisés et la communauté et voilà le résultat.
La crise qui affecte l'Ituri est une affaire entre nous, Ituriens. Cela signifie que nous pouvons résoudre ce problème localement. Ces propos sont du député national gracien Iran Chan, qui était dans la délégation du ministre national de l'Industrie qui a achevé mardi dernier un séjour de 4 jours en Ituri. Pour cet acteur politique, les violences auxquelles se livre le jeune constituent un frein pour le développement de la province de l'Ituri. Il invite ses miliciens de différents groupes armés qui s'enrichissent illicitement au prix du sang de la population à rendre leurs âmes et à œuvrer pour le retour de la paix. Suivez un extrait de ses propos choisi par Jean-Claude Loki.
Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui, c'est souvent des jeunes qui sont en train de s'enrichir illicitement avec les armes. Parce que les armes ne peuvent jamais aider pour le développement. Et donc j'appelle mes frères ituriens à déposer les armes. Même si le gouvernement n'a pas encore honoré sa promesse pour vous démobiliser, pour vous donner un peu d'argent pour la réinsertion, mais déposez les armes parce que tous les crimes que vous commettez, ça retombe sur la province et nous perdons. Et même vous êtes un enfant utile pour notre province. Maintenant, si vous mettez dans une condition où on doit vous poursuivre, ça ne profite à personne. Nous avons besoin de la paix. Laissez les armes. J'aurais aimé que les jeunes eux-mêmes déposent les armes et ils rentrent faire les activités des champs. Ils se transforment à des ambassadeurs de la paix. Ils commencent à arrêter ou à interdire les autres collègues, leurs frères d'armes qui sont en train de faire les désordres. Et ça, nous allons en tout cas avoir des retombées positives. Et les jeunes doivent nous aider aussi à dénoncer ces tireurs de ficelles qui veulent en fait jouer de leur conscience pour abuser.
Au Kasaï central, précisément à Kananga, le HCR rapporte de l'assistance en article à 400 ménages installés dans la localité d'Nkonko, commune d'Nganza. Ces personnes qui sont les retournées d'Angola ont reçu des articles ménagers. François Kadima nous en parle.
Ustensiles de cuisine, seaux, nattes, jerrycans et moustiquaires, voilà le kit remis à chaque ménage par le SR. Cette agence onusienne qui apporte l'assistance accompagne les familles revenues de l'Angola dans le cadre de la villagisation pour leur permettre de bien s'installer et s'intégrer. Roland Spongo, représentant du chef de la sous-délégation du SR Kananga.
Nous avons un peu plus de 400 ménages qui vont bénéficier de cette assistance. Nous entendons apporter cette assistance dans ce pôle de convergence de Konko, mais nous nous rendrons aussi pour la même assistance au niveau du pôle de convergence de Tilumba pour apporter le même type d'assistance aux populations installées à Tilumba.
Bénéficiaire de cette assistance, cette dame a exprimé sa joie tout en souhaitant voir le HCR appuyer également les études des enfants.
De ce que j'ai eu, mais si on pense également à nous, nous serons toujours d'accord. C'est vrai que le HCR nous a trouvé les maisons pour dormir, nous avons les enfants. Nous souhaitons que l'ASR nous aide aussi à faire étudier nos enfants.
Signalons que ces familles retournées d'Angola sont installées sur 2 sites, notamment dans la localité Nkonko en Nganza et à Chilumba dans la commune de Katoka. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Retour à Kinshasa. La commission justice et paix de la SINCO et l'Université catholique du Congo ont célébré la journée internationale des droits de l'homme par une conférence sous le thème « La paix et le droit humain en RDC » à l'aune de la Constitution des 18 février 2006, « Défis et perspectives ». Une occasion pour la SINCO d'appeler les scientifiques à réfléchir sur la situation des droits humains en RDC et la problématique de la révision ou changement de la Constitution qui divise actuellement les acteurs politiques et sociaux. Le détail dans ce reportage de Jody Nkachama.
Une journée ponctuée d'interventions purement scientifiques dans une ambiance interactive et participative sous la modération des professeurs de l'UCC. Les participants ont eu droit à 2 panels. Le premier a porté sur la situation générale des droits humains et le second sur la révision ou changement de la Constitution. Parité exige, le professeur Arlette Massamouna s'est intéressé aux droits de l'éducation de la femme comme gage à la participation citoyenne. Pour elle, le pays ne peut pas se développer si la population féminine reste analphabète.
J'ai rappelé les inégalités qu'ont connu les femmes à pouvoir accéder à l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons une femme Premier ministre. Nous sommes heureuses de la voir, que c'est une femme universitaire. Et donc, finalement, le droit à l'éducation permet aux femmes de pouvoir remplir des fonctions importantes dans notre pays.
Le second panel, consacré à la révision ou changement de la Constitution, a eu comme intervenant le professeur Jean-Claude Chilumbay, vice-président de l'Assemblée nationale, en face du président du parti en vol, Déli Sesanga. Si pour l'un, il est bon de revisiter la Constitution, pour l'autre, il est mieux de renforcer la stabilité de la RDC, la cohésion sociale, ainsi que le vivre ensemble, en évitant une révision ou changement de la Constitution en ce moment.
accroître la participation des femmes à la prévention et la résolution des conflits et à la consolidation de la paix. C'est l'objectif d'une journée de réflexion organisée le mercredi 11 décembre à Kinshasa par la MONUSCO à travers sa section genre en collaboration avec les agences, fonds et programmes des Nations Unies soutenues par le ministère de genre, famille et enfants. Cette rencontre s'est tenue en marge de la célébration du 24e anniversaire de la résolution 1325, une occasion pour les actrices congolaises de la paix d'évaluer le rôle des femmes et le progrès réalisé dans l'amélioration de leur protection, leur participation à la prévention et la résolution des conflits et à la consolidation de la paix. On écoute Mireille Laurier, conseillère principale sur le genre et chef de la section genre de la MONUSCO, au micro de Jeff Opela.
Les échanges ont été riches avec des interventions du ministère du genre à travers notamment le secrétariat technique national sur la 1325 qui coordonne la mise en œuvre du plan d'action national donc de la RDC sur la résolution 1325, l'agenda femmes, paix et sécurité. Nous avons également eu des interventions de la cellule technique sur la masculinité positive pour parler de la nouvelle stratégie nationale sur la masculinité positive. Nous allons aussi continuer de travailler avec le gouvernement, avec le ministère du genre, sur la mise en œuvre de cette stratégie nationale de masculinité positive. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à encourager les hommes à être des alliés de l'égalité de genre, à être des alliés en fait de la lutte aussi contre les violences faites aux femmes en application donc des principes de la masculinité positive.
Nord Kivu, le royaume de Pays-Bas a décerné mardi 10 décembre le prix Tulipe à maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains. La remise officielle a eu lieu à Goma en présence de la délégation de l'ambassade de Pays-Bas en RDC, des autorités gouvernementales et d'une centaine de défenseurs locaux de droits humains. Ce prix, qui est le quatrième pour cet activiste, lui est décerné pour son implication dans la lutte pour la justice climatique. Bernardin Nyangi.
Le prix Tulipe, au-delà d'un trophée de reconnaissance pour les actions des défenseurs des droits humains, il symbolise aussi un appel à l'action pour les droits humains et la durabilité environnementale, dit le chef de bureau de liaison de l'ambassade des Pays-Bas à Goma, qu'il a remis au lauréat, Michel Smet.
Le prix Tulipe est une reconnaissance de l'importance de ces efforts et un appel à l'action pour tous ceux qui croient en un avenir où les droits humains et de la durabilité environnementale vont de pair.
Maître Olivier Ndolé, qui est ce jour à son quatrième prix, dit dédier cette reconnaissance à tous les défenseurs qui militent à son côté.
C'est le premier prix national. Comme vous le savez, j'ai été primé comme The Face of Conservation par Haïtien Pays-Bas, comme Frontline Defender en 2023 et toujours cette année 2024, j'ai été le lauréat du prix Global Citizen catégorie climat. Mais ce prix, c'est une reconnaissance parce que comme vous le savez, les défenseurs de l'environnement, les défenseurs des droits fonciers font un travail exceptionnel par rapport à la protection de cette planète.
Rappelons qu'Olivier Ndolé est le troisième Congolais de l'Est à recevoir le prix Tulipe des Pays-Bas après Justin Masika et Vicar Batundiangi. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
La première session de formation avancée sur la MPOX est à son quatrième jour ce jeudi à l'INRB à Kinshasa. Elle est notamment destinée au personnel de santé, tant animal qu'humaine, qui interviennent dans la lutte contre cette maladie. Son but est de mettre à jour leurs connaissances sur la MPOX vu ses mutations afin d'adapter les stratégies de lutte. 6 provinces de la RDC y prennent part, mais aussi d'autres pays africains comme le Cameroun et la Guinée. Le professeur Steve Hauka, chef de département de virologie à l'INRB et coordonnateur de la plateforme de recherche internationale sur la santé mondiale en RDC, revient sur l'importance de ces assises. Il est au micro de Nossa Yamasiki.
Ces cours tombent à point nommé pour une maladie que nous avions déjà eue depuis 1970, qui sévissait de manière endémique dans certaines de nos régions forestières. Mais cette maladie, à cause de l'intégration du virus, mais aussi du changement des symptômes, a maintenant développé d'autres voies de transmission, y compris la voie sexuelle. Et il est maintenant important, c'est que les personnes sur le terrain connaissent ces changements, comment on les diagnostique pour adapter les stratégies. Cette formation intéresse les DPS les plus infectés. Nous avons invité 6 provinces. Kinshasa, très infectés, les deux Kivu, la Tchopo, le Sankoro, l'Équateur. On a aussi associé Kinshasa et Lubumbashi. Dans les autres éditions, on pourra intéresser les autres DPS qui aussi commencent à notifier des cas. Mais ce qui est innovant ici, c'est que nous regroupons tous les répondeurs, pas seulement une corporation, mais les différentes spécialités, le diagnostic, la surveillance épidémiologique, la clinique, la vaccination et aussi les contrôles des maladies. Ça permettra à ce que les équipes apprennent déjà à savoir ce qui se passe et améliorer la collaboration sur le terrain.
Cette rencontre est une initiative de la plateforme PRISM qui réunit des institutions de recherche et d'enseignement congolais et français. C'est notamment l'INRB et l'UNIQUIN pour la RDC. Et côté français, l'Institut de recherche pour le développement en France et l'Agence internationale de recherche sur le sida et les maladies émergentes. La clôture est prévue ce vendredi.
Actualité internationale.
Mardi au Niger, dans le département de Tera, près d'une centaine de soldats sont morts dans un combat contre des djihadistes dont la fusillade. Une cinquantaine de civils ont également été tués. À la suite de cette hécatombe, l'état-major tenait le mercredi matin une réunion d'urgence autour du chef des armées, le général Moussa Salaoum Barmou. Les autorités organisent dans la journée des obsèques symboliques en hommage aux militaires tombés dans cette attaque la plus meurtrière survenue au Niger depuis 6 mois.
L'invité.
Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, est l'invité de Radio Kapi. Il s'est entretenu avec Jean Kassami lors d'une visite d'encouragement au personnel de l'équipe réduite de la MONUSCO après le désengagement de la mission dans la province du Sud Kivu.
Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, bonjour.
Oui, bonjour.
Ça fait 6 mois depuis que la MONUSCO s'est désengagée de la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, vous jugez nécessaire de venir prendre langue avec l'équipe résiduelle. Pour quelle nécessité?
C'est d'abord venir dire merci à la MONUSCO, à son équipe résiduelle, particulièrement à son chef ici présent et à toute l'équipe, pour l'excellent travail qu'elle a réalisé dans la province du Sud Kivu depuis qu'elle est en République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un acte de reconnaissance pour tout ce qui a déjà été fait, pour la protection de la population civile, pour la promotion et la protection des droits de l'homme, pour la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et les violences sexuelles basées sur le genre. Ils ont aussi contribué à stabiliser la zone. Ils ont contribué à sensibiliser la population à travers son média, Radio Okapi, et ils continuent à le faire. Et donc, nous sommes venus dire merci, nous reconnaissons tout ce travail, et c'est vraiment un plaisir de me retrouver ici en tant qu'autorité provinciale pour échanger avec les nôtres, pour savoir les voies et moyens par lesquels on peut raffermir, renforcer ces acquis pour plus de protection, plus de paix, de sécurité dans la province du Sud Kivu.
La MONUSCO utilisait une main d'œuvre très importante, mais aujourd'hui elle se retrouve en chômage. Comment la province compte-t-elle se servir de ces compétences-là?
Oui, je tenais d'abord encore une fois à dire merci à tous ces jeunes Congolais, à toutes ces femmes, et à tous ces hommes, à tous ces gens qui ont eu l'opportunité de servir la MONUSCO pendant si longtemps, qui ont gagné leur vie correctement, mais qui ont presté correctement. Parce que le système des Nations Unies, pour avoir eu la chance d'y évoluer, si on vous garde au poste pendant plus d'un mois, c'est que vous êtes correct, vous êtes fort, vous avez adopté les codes de conduite, vous avez adopté les principes d'éthique et de déontologie professionnelle. Et donc, vous, nos frères et sœurs congolais, qui avez été ici ou qui êtes ici, nous tenons à vous féliciter et à reconnaître que vous avez servi la nation avec fierté. Soyez-en félicités. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir de ces citoyens, nous allons faire un effort pour qu'au niveau de la province, nous soyons beaucoup plus créatifs. Et être beaucoup plus créatif, c'est mettre en place un certain nombre d'initiatives qui peuvent permettre de générer de moyens et d'aider à construire la province. Et donc cette expertise multisectorielle qui s'est développée à travers la MONUSCO, cette expertise locale, que ce soit dans les secteurs, nous venons de visiter par exemple le génie civil, hein, donc il y a l'eau, ce sont des experts congolais qui produisent de l'eau, qui pompent de l'eau du lac pour le conduire ici à la MONUSCO, le transformer, et que c'est l'eau que la MONUSCO boit. Tout le personnel de la MONUSCO boit cette eau. 90% des experts ici, ce sont des citoyens congolais, des citoyens d'ici, à Bukavu particulièrement, et d'autres provinces de la RDC. Et donc, je vois que la cuisine, ceux qui servent à manger ici, ce sont des prestataires congolais. Ceux qui font du nettoyage, ce sont des citoyens congolais qui ont eu le marché. Ceux qui procurent d'autres commodités sont des Congolais. Ils ont acquis, ceux qui ont formé, ceux qui mènent des investigations sur les violations des droits de l'homme, c'est aussi des Congolais. Ceux qui luttent contre les violences faites aux femmes, c'est le personnel de la MONUSCO, mais ce sont des Congolais. Donc nous sommes très très fiers. Le secteur de l'aviation, on peut avancer dans d'autres domaines. Donc vraiment très très fiers qu'on ait une si grande expertise. Et crois-moi personnellement, je pense que nous allons saisir cette opportunité. Je viens de parler avec certains d'entre eux. Dans les jours à venir, je vais réunir tous ces anciens du système des Nations Unies qui n'ont plus de travail et ceux qui n'en ont pas. Comme nous sommes dans le processus de recrutement, nous allons assurer que nous puissions en collecter certains pour les positionner par rapport à un certain nombre de postes, notamment dans la société provinciale des minerais que nous venons de créer, la société provinciale d'assainissement, ainsi que la société provinciale de l'eau et la société provinciale des infrastructures. Et donc toute cette expertise, nous comptons récupérer ça pour nous aider à reconstruire la province qui ne restait pas inutilisée.
Jean Kassami interrogeait le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi. Ainsi prend fin ce journal sur Radio Kapi. Je vous souhaite de passer une excellente journée.